Juste une première question toute simple, de te présenter dans tes fonctions.
Je suis donc Anne-Laure Moniaud, je suis architecte au sein de la Direction Générale de l'Aménagement de Bordeaux Métropole. Et je suis responsable du service qui s'appelle aujourd'hui Architecture et Patrimoine Urbain en Projet et qui anciennement était cette mission de recensement du paysage architectural et urbain.
D'accord, alors donc au titre de ces fonctions, ton service a participé de manière importante donc à la fabrique du PLU patrimonial de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est que le PLU patrimonial ?
Voilà, en fait, ce service, il existe parce que le maire de Bordeaux a voulu pouvoir préserver les qualités de son patrimoine urbain au-delà du secteur sauvegardé, sur un territoire qui est assez vaste, qui représente 1800 hectares, et qu'au lieu de le confier à un chargé d'études extérieures, sur les conseils d'Alexandre Mélissinos, il a décidé de recruter une équipe au départ de 4 personnes qui s'est vite agrandie à 6, 4 architectes, plus un architecte historien, plus un géomaticien, pour faire l'inventaire de ce qu'on a appelé donc ces paysages architecturaux et urbains dont il s'agissait d'encadrer l'évolution, c'est-à-dire de préserver les qualités et de définir dans quelles conditions ils pouvaient évoluer. Donc ça s'est vite appelé après, dans le cadre des séminaires qui rassemblent les gens qui travaillent sur la question, le PLU patrimonial. Mais au début, on n'a pas lancé un appel d'offres pour dire la ville de Bordeaux va créer un PLU patrimonial. Au début, on a dit on va faire un inventaire du patrimoine architectural et urbain. Puis moi, j'ai appelé la mission paysage architectural et urbain, puisqu'on était depuis l'espace public, qu'il s'agissait de bien d'autres choses que d'une collection d'architectures posées les unes à côté des autres, mais on était dans la question de l'assemblage aussi, le tracé des rues, leur hauteur relative, le découpage parcellaire, l'assemblage parcelles domestiques et des parcelles plus grandes qui peuvent accueillir des petits collectifs aujourd'hui, mais qui avant avaient des emprises artisanales. Enfin, c'était tout ça, ce paysage architectural et urbain de Bordeaux, qu'on nous demandait d'inventorier pour en préserver les qualités et donc écrire un PLU capable de ça. Voilà. Alors au départ, on ne savait pas trop comment il fallait faire. On a abouti à un document qui a une partie écrite et puis une partie graphique qui permet de dessiner sur le plan les constructions qui ne doivent pas être démolies. Qui peuvent évoluer dans certaines conditions, toujours la même chose, hein, préserver leur qualité et puis résorber leurs défauts. Qu'est-ce qu'on peut aussi construire à côté ? Parce que préserver ce patrimoine urbain, c'était pas seulement préserver ce qui avait un intérêt, c'était aussi préserver le raccordement, la continuité urbaine, comment ce qu'on construit à côté, derrière, devant, va avec ce qui fait la qualité. Donc du coup, ce PLU, il est dessiné, des emprises constructibles adaptées à chaque îlot, à la morphologie parcellaire dont j'ai parlé tout à l'heure, à la hauteur des rues, qui n'est pas toujours la même, alors que on est peut-être dans le même quartier, donc la théorie de la grande zone, ça ne marchait pas. Donc un PLU comme ça, qu'on appelle patrimonial, c'est un PLU qu'on dit aussi fin, et c'est aussi un PLU adapté, qui se base sur une connaissance précise du terrain. Voilà. C'est parce qu'on a fait l'inventaire depuis l'espace public, qu'on a fait les fiches de manière exhaustive, qu'on peut dire ça on le garde, on garde l'existant. Et le projet qui viendra remplacer tel autre qu'on ne garde pas, il devra apporter à son environnement plus qu'il ne l'y retire. Voilà, donc c'est à peu près ça. Enfin, je pense que j'ai répondu là,
oui,
à la question,
oui, oui.
Un peu largement.
Alors,
même.
Un petit détail justement, parce que tu as dit que finalement l'approche ça avait été celle du paysage urbain et architectural. Et finalement, qu'est-ce qui a donné naissance, si c'est possible d'identifier un moment, à l'expression de PLU patrimonial et par exemple pas à un PLU paysager?
Oh ben ça dépend pas de moi, ça c'est le milieu qui l'a voulu. C'est-à-dire oui. Que peut-être qu'il y a eu à un moment donné un colloque ou une journée d'études, je ne sais plus si c'était Chinon en 2006 ou si c'était les journées de juridiques de la Bretèche où on a présenté également, et on me dit on va vous faire venir pour intervenir sur le PLU patrimonial. Voilà, c'est venu comme ça, mais ça ne dépend pas de nous. C'est vous autant que nous, cette affaire de PLU patrimonial. C'est, et moi, je n'aime pas le mot patrimonial. L'adjectif patrimonial, je trouve... Je ne l'aime pas, parce que je trouve que le patrimoine, c'est une relation. Ça n'existe pas en soi. C'est la façon dont on veut transmettre des valeurs que l'on a identifiées dans des choses matérielles qui font partie du projet. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le patrimoine et le projet, puisque le patrimoine, c'est dans le projet de transmission. Enfin, je dis ça souvent, mais des fois, on ne comprend pas. Bien, parce qu'il y a une confusion entre bâti ancien et patrimoine. Parfois, on dit patrimoine pour désigner le bâti ancien. Et d'abord, le patrimoine, c'est bien plus que le bâti. C'est aussi les vides, c'est aussi les façons d'assembler. Et puis, c'est surtout cette idée que dans la bibliothèque que mon grand-père m'a léguée, il y a un certain nombre de choses que je vais pas, qui ne m'intéressent pas, que je ne vais pas garder. Et donc, le patrimoine, c'est ce qui est encore actuel. C'est ce que j'ai envie de garder parce que ça m'intéresse, ça me concerne. Et je vais l'assembler avec des choses qui sont moins anciennes, que j'apporte moi à la bibliothèque de mon grand-père, par exemple.
D'accord. Et... alors, du coup, est-ce que de par le lien qui paraît facile entre l'idée que le patrimoine, c'est forcément quelque chose à relier au projet, est-ce que du coup, le plan local d'urbanisme se prête mieux que d'autres outils à cette intégration du patrimoine dans une logique de projet ? Voilà. Et bien sûr, si je dis ça, c'est un peu comparativement aux outils qui sont dédiés au patrimoine. À la protection du patrimoine.
Dans mon esprit, oui, mais je ne suis pas très bien placée pour parler des autres outils parce que je ne les ai pas exercés. Enfin, je ne les ai pas. Voilà. Mais j'ai la sensation. En tout cas, en ce qui concerne le patrimoine urbain de Bordeaux, l'autre jour, on parlait de patrimoine ordinaire, modeste, domestique, familier, du quotidien, etc. Et j'ai répondu, mais à Bordeaux, on a évacué cette question parce qu'on dit patrimoine urbain. C'est l'outil qui me semble le plus adapté puisque. On est dans écrire un document qui va gérer l'évolution et que cette évolution, on a décidé qu'elle pouvait se faire avec l'existant auquel on avait affecté des valeurs, donc une sorte de capital. Donc il faut valoriser le capital. Donc se confronter aux enjeux de cette transmission en amont du projet, mais au moment de l'écriture de la règle, ça me semble plus intéressant parce que ça va castagner, mais avant et au moment où il y aura la règle, sur le papier, il n'y aura pas cette espèce de conflit qui renvoie les patrimoniaux dans leur poussière et puis la fameuse querelle éternelle entre les anciens et les modernes, enfin cette espèce de dos à dos qui est pour moi qui est stérile. Donc voilà ce que je dirais, mais je ne veux pas condamner d'autres outils que je ne connais pas bien et qui correspondent peut-être à d'autres patrimoines.
Alors, du coup, en lien avec cette question, est-ce que le PLU patrimonial, dans l'expression qu'on lui donne pour le moment, peut être un complément pertinent à d'autres outils de protection ? Alors, soit parfois en superposition, je pense bien sûr à la superposition d'une AVAP avec un PLU, soit en complément, par exemple, du secteur sauvegardé de Bordeaux, puisque c'est le choix qui a été fait par la ville. Donc, le choix d'un PLU patrimonial plus que d'une AVAP. Là, par exemple, sur le quartier de Mériadec, tu disais qu'il avait été envisagé, il a été cité qu'il puisse y avoir une AVAP. Voilà. Comment se fait cette articulation et...
Alors, quand on parle de gestion du patrimoine mondial, je parle souvent d'un système d'outils ou d'un dispositif ou d'un dispositif d'outils qui effectivement s'articule et se complète et correspondent chacun à différents types de patrimoine. Alors à Bordeaux, on a effectivement le secteur sauvegardé, qui au passage n'avait pas eu de véritable inventaire, fichier immeuble. Il est en train d'être fait et un peu grâce à l'inventaire, au recensement sur la ville de Pierre. Les monuments historiques, leurs abords. et pas véritablement d'AVAP sur la commune de Bordelaise. Il y en a une à Lormont et il y en a une à Pessac pour la cité Frugès. La superposition AVAP, AVAP-PLU, moi ça me semble, enfin voilà, puis enfin, espèce de feuilletage un peu stérile. Je racontais tout à l'heure qu'il en avait été question ici. Le simple intérêt que ça avait, c'était un outil contrôlé par l'État. Et puis quand il y avait eu la querelle sur justement le rôle des ABF par rapport aux AVAP et le sens de leur avis, finalement on se rendait compte que cet argument il tenait pas. Parce qu'il est aussi facile de faire que de tenir que de défaire par un simple un changement de loi, un changement de mode d'application. Donc je ne crois pas tellement à ça. Je crois plutôt au fait que ça sert à les partager, ces valeurs, parce qu'en accompagnement de la mission d'inventaire, pour emporter l'adhésion, mais aussi à plusieurs niveaux, aussi pour justifier le temps passé, il y a des parcours dans la ville de Pierre, parfois accompagnés à l'occasion des journées du patrimoine, mais aussi distribués sous forme de feuillets. C'est une façon de restituer aux Bordelais l'argent qu'ils mettent dans cette équipe, des carnets qui vont les aider à faire leurs travaux et qui ne sont pas seulement des recommandations qui vont dire là c'est bien, là c'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça, va te laver les dents. Non, c'est essayer d'expliquer quelles sont les qualités pour que ces qualités soient appropriées. Donc monter une démarche comme ça, c'est monter globalement tout le monde vers le haut. Alors je dis pas que c'est facile tout le temps, je dis pas que ça marche tout le temps, ça marche généralement mieux avec les étrangers. Bordeaux attire beaucoup de gens, à tel point qu'il y a une association qui s'appelle les Parisiens de Bordeaux qui accueille ces nouveaux arrivants. Et finalement les Parisiens de Bordeaux, quand ils arrivent à Bordeaux, ils viennent pour le patrimoine et du coup ils ont dans leur programme de travaux, quand ils investissent, peut-être plus de travaux visant à valoriser l'image de l'architecture que le Bordelais qui déménage d'espace en espace. Et pour nous, l'enjeu, c'est ça, c'est que dans le programme de travaux, il y ait des travaux qui entretiennent ces architectures mieux qu'elles ne le sont, et qu'on les traite bien, en fait, qu'on en prenne soin.
Donc en termes de... Oui, mais c'est important, parce que du coup, ça pose la question aussi de l'appropriation et des processus de patrimonialisation, non seulement pour les services, mais enfin, justement aussi pour les habitants. Donc, est-ce que le fait que le document d'urbanisme soit déjà légalement soumis à une obligation de concertation, qui est quand même largement pratiquée, en tout cas dans les grandes villes, est-ce que ça facilite ces processus de patrimonialisation?
Ce qui a beaucoup facilité, c'est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, parce que ça a eu un retentissement. Et le fait que ça soit un périmètre justement urbain et coïncidé avec la démarche d'inventaire et de PLU. Donc ça se rétroalimente, c'est-à-dire les deux démarches, parce que c'est la connaissance et la règle de gestion, permettent l'inscription d'un vaste périmètre, et la règle du vaste périmètre passe mieux parce que tout un chacun peut dire, mais c'est aussi ma maison dans cette rue de quartier éloignée du centre, traversée par les touristes et qui font l'objet des visites accompagnées. Après la communication, la concertation au moment de l'enquête publique de la première modification, on a fait des parcours, ça s'appelait 21 rendez-vous pour bien regarder la ville de Pierre. On l'a fait avec l'assistante d'une boîte de communication qui nous a pris des trucs, et puis après on a continué à faire tout seul. C'était DAC et Paysages Possibles associés. On l'a fait dans plein de quartiers, même s'ils n'étaient pas concernés par cette modification-là, histoire de dire ça vous arrivera aussi à vous. Et en réalité, on a touché 250 personnes. Et là, on nous a dit, non mais vous êtes fous, vous avez dépensé tout cet argent pour 250 personnes. Donc faites autrement. Donc du coup, plutôt des publications, les parcours adossés aux journées du patrimoine ou à d'autres événements. Mais vous, votre boulot de base, c'est l'inventaire, l'écriture du PLU, c'est pas de vous transformer en en guide conférencier. Voilà, donc après il y a eu les, enfin après en même temps il y a eu les appels à idées, c'est un autre mode d'appropriation qui est assez efficace parce que c'est les professionnels, mais comme c'est montré au grand public pendant Agora, ben, c'est aussi, ça rapproche le grand public des architectes et des idées qui sont travaillées par les architectes sur des questions que se pose l'administration, et puis ça mobilise aussi les élus sur ces sujets-là, puisque toujours ils sont associés pour ouvrir un débat au moment du jury, etc. etc. Donc voilà, la communication, non pas comme a posteriori d'un produit fini, mais la communication comme un outil du projet. Ça, c'est quelque chose qui s'est construit avec, notamment avec cette affaire, puis il y a d'autres sujets à la Direction Générale de l'Aménagement, et on croit beaucoup à ça.
Voilà. Alors le travail du service, c'est de faire cet inventaire et de passer, d'aller jusqu'à l'écriture
voilà.
Réglementaire. Voilà, comment se déroule cette étape ?
Voilà, alors au départ, l'équipe qui a été recrutée, on avait, enfin, la vue de l'esprit avait imaginé qu'elle faisait l'inventaire et qu'elle le passait au service du projet urbain qui, lui, allait donner les prescriptions urbaines. Et puis on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas comme ça, que c'était celui qui avait vu, qui était capable de dire comment ça pouvait évoluer, comment le mettre en perspective. Ça d'une part, de l'autre côté, les élus, ils pensaient qu'on allait faire des fiches où on allait dire là, il peut y avoir une baie de garage, là, il ne peut pas y avoir de baie de garage, là, la baie commerciale va être comme ça. Bon, et on peut le comprendre parce que c'est ce que l'on recherche, pouvoir donner une réponse facile. Et puis en plus, le droit nous fait croire qu'avec le droit, c'est bien parce qu'on pourra dire c'est oui ou c'est non. Et ça sera. Bon, or, c'est pas exactement comme ça que fonctionne un document d'urbanisme parce qu'il ne connaît pas le projet qui va être amené à encadrer. Donc on est venu progressivement avec l'aide d'Alexandre Mélissinos à cette idée de PLU dessiné, hein, et du coup ça se traduit concrètement par un outil d'enquête d'abord qui est géoréférencé, hein, c'est, tout ça c'est une base de données avec un SIG, hein, donc les résultats de l'évaluation du bâti directement accessible sur une carte sur laquelle on a également le parcellaire, les photos, les orthophotos aériennes, et qui du coup permettent d'avoir une approche morphologique et de se caler sur la morphologie des îlots pour dessiner les emprises constructibles. Voilà, donc c'est les équipes qui font ça, et puis on a des rendez-vous réguliers pour que je vois ce qui a été dessiné et qu'on en discute, parce que c'est parfois difficile tout seul de faire ce sont des sortes de projets, on fait pas de plan masse, mais c'est des sortes de projets pour l'îlot. Donc il vaut mieux pouvoir en discuter. Voilà, puis on a aussi un rôle un peu d'accompagnement, bah justement, des urbanistes qui sont chargés des projets dans ces secteurs, et du droit des sols qui peut être amené à nous demander qu'est-ce qu'on a bien voulu dire par ça, ou si l'interprétation est bonne. Mais après toutes ces années, l'appropriation par les services d'instruction, elle est plutôt bonne. Et je dirais même plus, par rapport à mon besoin de m'assurer que tout est bien, elle est presque trop bonne, parce que le truc, il vit sa vie après. C'est ça qu'il faut, aussi accepter. Par exemple, Leïla est arrivée après, et l'autre jour, elle me parlait d'un bout de règle sur un terrain où elle n'était pas là, mais elle se l'était tout de suite. Voilà, mais il faut que... C'est comme ça. Enfin, c'est...
Et pourquoi ce serait trop... Pourquoi ce serait trop bien ? Enfin, pourquoi l'appropriation serait trop bonne ? Enfin,
parce que finalement, c'est il y a une marge, il y a quand même une marge d'appréciation et donc chacun y voit ce qu'il y, enfin l'évidence de sa propre interprétation, qui n'est pas forcément la mienne. Enfin, là, en l'occurrence, avec Leïla, je n'étais pas du tout d'accord. Mais peu importe. C'est pourvu que globalement, le projet qui se fasse réponde à des attendus. Alors après, comment on le rend possible avec la... la c'est...
Et là, sur l'écriture réglementaire, il y a la dimension plutôt plan masse, évolution de l'îlot et des parcelles. Mais il y a aussi une dimension d'écriture réglementaire par le biais des articles traditionnels voilà. du PLU. Mmh. Voilà, alors
jusqu'à présent et jusqu'à la révision 3.1, et on verra comment ça continue par la suite, le PLU, il est intercommunal de toute façon. Donc le service est devenu métropolitain au 1er janvier dernier. Donc tout auparavant, ce service était un service de la commune de Bordeaux. Donc, cette affaire, c'est une contribution jusqu'à présent de la ville de Bordeaux à un PLU intercommunal. Une contribution musclée, mais une contribution. Pour écrire le PLU, la CUB à l'époque, qui est devenue métropole un peu plus d'un an, a le concours de l'agence d'urbanisme, qui est maître d'œuvre. Donc concrètement, ça se passe que tout ce petit monde se voit en réunion, écrit, et puis qu'il y a des débats avec des juristes qui nous disent « mais si tu veux ça, c'est ça que tu veux, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Là, dans mon plan, parce que tous les règlements vont avoir le même plan et donc tu dois te plier à ma zone, ça va être comme ça. » Je pense par exemple à quand on veut mettre dans les articles qui concernent les réseaux, des choses sur le fait que les réseaux doivent pas abîmer les ordonnancements de façade. Là, c'est le débat sans fin avec ceux qui disent que dans leur plan, tout ce qui est sur les réseaux, c'est dans les réseaux, et que tout ce qui concerne l'aspect, c'est dans l'article 11. Et qu'on veut te mettre que dans l'article 11. Alors, les questions de patrimoine, c'est pas que l'article 11. Je suis désolée. Voilà, alors maintenant il n'y a plus l'article 11, mais on va encore en parler longtemps, je pense, entre nous peut-être. Mais il est question que dans les prochaines procédures, l'agence d'urbanisme laisse un peu tomber et qu'on ait à faire ce travail plutôt avec nos collègues directement de la planification qui de toute façon ont déjà pas mal écrit un certain nombre de règlements. Oui. Voilà. Après, le PLU 3.1 est une grosse affaire, donc je pense que tout le monde pense qu'il va durer longtemps et qu'il aura juste besoin de petites béquilles à droite, à gauche, mais que c'est... donc il n'y aura pas forcément tout à remanier. Voilà, c'est comme ça que ça répond. On l'a éprouvé aussi, hein, c'est-à-dire intégré dans le PLU par modifications successives. Après l'avoir obtenu... au sommet, parce qu'au départ, juste pour avoir réussi à démontrer que c'était dans le PADD, donc il n'y avait pas de remise en cause de l'économie générale, mais au début ça a été chaud. Hein. Et ce qui nous permet de l'éprouver et puis du coup d'adapter des petites choses, ou des choses les plus qui bougent le plus, c'est la question des terrasses en fait. C'est la question des terrasses. Alors, dans la première version, les terrasses étaient autorisées à condition de se reculer de tant de mètres, de telle ligne, de toit, etc. Puis après, ça a été que d'un côté. Puis ensuite, on supprime parce que finalement, on n'arrive pas à évaluer les projets là-dessus. C'est pas ça qui fait la règle. Mais bon, c'est un exemple. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent bouger.
J'ai deux petites questions, puis je suis sûr que Mathieu en a d'autres aussi. Voilà. Alors, c'est là, tu parles d'ajustement. On entend bien que c'est des ajustements pour améliorer ou renforcer, enfin, je pense, gagner en qualité sur la protection du patrimoine. Certains pensent que les ajustements possibles qu'il peut y avoir dans un PLU peuvent être une manière, finalement, de l'affaiblir.
Oui. Ah oui, alors la grande question d'un PLU, comme on peut le changer, c'est forcément pas un outil pour le patrimoine. Alors ça, il y a une véritable, c'est une faute épistémologique. Enfin, moi je ne comprends pas qu'on puisse dire ça, parce que ça veut dire, c'est ceux qui disent ça, c'est ceux aussi qui disent que le bâti ancien c'est le patrimoine. C'est la même confusion, parce que le patrimoine, ça s'actualise tout le temps. Cette relation, elle est forcément en mouvement. Donc, il y a peut-être des patrimoines monumentaux qui sont définitifs, et il y a sans doute des outils pour ça. Et il y a des patrimoines pour lesquels on a besoin de réévaluer leur patrimonialisation à l'aune de possibilités, de projets qu'on n'avait peut-être pas au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que ça relève aussi d'un procès d'intention. Et puis changer le PLU, ça serait forcément pour diminuer la protection du patrimoine. On peut changer le PLU pour l'augmenter, parce qu'on le connaît mieux. J'aimerais qu'un jour on prenne le temps d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est des idées superficielles, ça. C'est des préjugés qui vont pas très au fond de la question.
Et c'est ma dernière question. Tu as parlé donc du fait que la compétence était maintenant une compétence intercommunale, donc dans le cadre de la métropole. Justement, est-ce que ça, c'est pas au passage une garantie? C'est ce qu'on a entendu, pour être franc, dans la bouche de Corinne Langlois tout à l'heure, finalement une garantie contre des évolutions intempestives du PLU, parce que le fait aussi d'être en PLU intercommunal, ça donne une certaine lourdeur aux évolutions du PLU, et donc ça peut être une façon de le protéger aussi au cas où, hein, voilà, les évolutions seraient toujours à la baisse. Mais voilà, quel est l'impact plus globalement du fait que
ce soit intercommunal,
PLU deviennent intercommunaux dans...
Corinne, elle a dû raconter
sur les questions de patrimoine,
que à Bordeaux, c'était intercommunal depuis longtemps, enfin c'est depuis 2006 que c'est intercommunal. Ça a vachement joué dans la question de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'était un des arguments, justement, et pour la fameuse zone tampon aussi. Puisque on avait, si on avait un PLU intercommunal, c'est qu'on avait une réflexion à l'échelle intercommunale. Donc le projet de développement dans lequel le patrimoine avait sa place était une réflexion globale. Et puis, à même dominante morphologique, on avait les mêmes règles. Donc c'était, je me souviens qu'on avait argumenté là-dessus. La nouvelle mouture est un peu différente, puisqu'elle est très à la carte, quoi, en quelque sorte. Donc il y a une base qui est commune. Et ensuite, les élus ont pu dire moi par ici, moi par là. Mais c'est devenu quelque chose de tellement, à la fois tellement complexe, et tant qu'on ne l'a pas éprouvé, moi je pense qu'au bout d'un moment ça deviendra simple, parce qu'ils ont réussi quand même à isoler ce qui était variable et ce qu'on avait besoin de consulter ou de savoir par cœur tous les jours. Dans sa machine, là, elle a dû raconter son histoire de machine à fabriquer du PLU. Non, elle n'a pas raconté
pas.
Ça. Ils ont inventé à la Urba, pour la révision du PLU 3.1, ils ont fait un développement pour pouvoir écrire du PLU comme ça à la chaîne. Donc chaque fois qu'on change, par exemple, tu te rends compte qu'il y a une faute ou qu'il y a un tel qui te dit « si tu devrais changer la syntaxe là », ça le change dans tous les articles immédiatement, sans que tu aies à vérifier. C'est un truc magique, absolument magique. Et du coup, ça facilite justement de répondre à des besoins ponctuels. Oui, un tel a dans la tête que finalement, il vaut mieux que les clôtures soient interdites au-dessus de 3 mètres et pas 2 mètres 50. Enfin, on en est là, quoi. On peut faire une zone pour une hauteur de clôture.
Alors je passe.
Voilà, mais ça c'est peut-être pas tellement.
Le mien.
Oui.
Ouais. Moi j'ai deux questions. La première, c'est rebondir sur tout à l'heure on parlait de l'articulation des outils entre eux, notamment. Et vous avez dit l'expression de dire que les outils sont adaptés en fonction des patrimoines. Donc la question, elle est toute bête. Le PLU, ça couvre quel type de patrimoine que ne couvriraient pas les autres, par exemple?
On a appelé ça un patrimoine urbain, mais je ne sais pas si on peut dire un patrimoine que ne couvriraient pas les autres.
Alors, c'est, dans ce cas, c'est, ma question serait, c'est quoi le patrimoine urbain?
c'est quoi le patrimoine urbain ? J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est plus une question d'un assemblage de pleins et de vides, de tracés, de façons de circuler dedans, de modes de vie par rapport à justement la mobilité ou le rapport dedans-dehors. Voilà, des choses comme ça. Enfin là, j'avais pas réfléchi à ça, mais le patrimoine urbain, en tout cas, c'est pas une collection d'objets architecturaux, c'est un système d'objets. Donc finalement, le tout est plus important que l'ensemble des parties. Par exemple, quand on dit une maison d'un niveau en pierre de taille avec un grand balcon filant entre les deux niveaux. Et il est soutenu, ce grand balcon, par des lourdes consoles qui rythment les baies. Et puis une des travées de fenêtres du rez-de-chaussée a été altérée par une porte de garage qui redessine une élévation déséquilibrée. Puis elle est étroite parce que c'est une travée de fenêtre, ensuite il y a une travée de porte et ensuite il y a deux travées de fenêtre. On vient, on nous dit on a besoin d'une porte de garage plus large. Donc si on était sur l'idée qu'on protégeait l'objet architectural pour lui-même, on ne pourrait pas protéger un patrimoine, un bâti ancien à altérer, parce que ça sous-entendait on ne peut rien toucher. Pour rien toucher, on doit revenir à un état d'origine. Il n'y a pas d'état d'origine pour ce type d'architecture connu. Il a pu déjà bouger, donc il vit sa vie. Donc là, ça permet de dire, vous nous réparez la baie, abîmée par la porte de garage, vous pouvez en faire une autre à la place des deux autres baies, et puis la console, vous la transformez en agrafe de la nouvelle baie, comme on a trouvé d'ailleurs dans le répertoire architectural bordelais. Donc voilà, ce sont ces choses-là.
Ma deuxième question, ça va être sur les relations d'acteurs. La force, je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas dans une AVAP ou une ZPPUP ou un secteur sauvegardé, la présence de l'architecte des bâtiments de France, elle est très forte. Ou en tout cas elle est dans la négociation, mais il est là. Dans un PLU, pas forcément si on n'est pas dans un rayon de 500 mètres. Est-ce que c'est l'un des acteurs, entre autres, avec qui vous travaillez même en dehors de ces périmètres ? Quelle est la relation avec l'ABF dans le cadre du PLU patrimonial ?
Alors en tout cas, on avait au départ de la mission, et puis finalement on l'a un peu. Il est mort de son propre poids. Un comité scientifique dans lequel il y avait notamment l'ABF, puis des associations des représentants d'associations, puis des savants, et puis il est peut-être mort aussi au moment où on a mis en place le comité local UNESCO Bordelais, parce qu'à force de multiplier comme ça les comités, Théodule, ceci, cela, ça s'est remplacé, puis c'était plus adapté, dans lequel il y a aussi l'ABF. Donc au départ, c'était ça, c'était accompagnement de l'équipe dans la façon dont elle envisage les choses. Puis les ABF, ils changent aussi, donc après ça dépend de chacun. Aujourd'hui, pour la fabrique du PLU patrimonial, je ne sais pas ce que voudra faire Camille pour la prochaine intégration dans le PLU ou son successeur. Parce que là, on vient d'avoir, on a une grosse période de vide avec la révision, parce qu'on a livré nos données. Il y a eu les années de procédure, mais on a continué notre inventaire et du coup, il y a tout qui est prêt, quasiment prêt, mais je ne sais pas si au niveau de la validation, ils voudront voir. Peut-être que la loi l'obligera, et je ne sais pas comment on s'organisera, mais en tout cas on s'adaptera. Jusqu'à présent, ils n'ont pas demandé à voir précisément. Tous les ans, je fais, dans le cadre de la formation qu'organise Dominique Masson, une intervention sur les PLU patrimoniaux. C'est peut-être lui d'ailleurs, l'auteur. Et j'y vais, et la tradition, c'est que j'y vais avec l'ABF. Ou alors, en tout cas, on est invités tous les deux. Et puis s'ils sont pas disponibles, ils viennent pas, ou voilà. Donc François Gondran, qui a été celui qui est arrivé, parce que bon, est arrivé juste au moment où on a mis en place le truc. Il a suivi, mais alors confiance, voilà, comme ça, confiance aveugle. Et il se l'appropriait, il était capable d'en parler tout seul, et puis ça me faisait la même chose que quand il interprète là le truc. Et là, voilà, la question ne s'est pas posée. Il n'y a pas d'atelier de validation comme on a pour le PSMV. Ça serait trop lourd, je crois. Ça serait trop lourd. Mais ensuite, l'ABF intervient comme il doit intervenir dans les instances au moment des projets. Voilà, oui. Il y a eu des points avec les... Il y a des points avec le service d'instruction. Nous, on n'instruit pas après. On va tout faire. Là, pour le coup, on n'instruit pas. On passe le relais.
Non, mais c'était la deuxième question. C'était du coup, vu que le règlement n'est pas coécrit si le règlement n'est pas coécrit entre l'ABF et la ville, c'est derrière comment ça se passe au niveau de la relation, sachant qu'il y a quand même tout un travail qui est fait en amont par vos services pour identifier un patrimoine, mettre des règles pour le protéger. L'ABF n'étant pas dans la boucle, est-ce qu'il y a des avis contradictoires derrière ou...
Je ne comprends pas, en fait.
Dans l'application, pour le coup, c'est dans l'application du PLU. Est-ce que peut y avoir des difficultés d'appréciation, justement, d'un règlement auquel l'ABF n'a pas participé à l'écriture ?
Sachant qu'il n'intervient pas...
Comme il n'intervient pas en amont...
...qui ne sont pas protégés, de toute façon, sur les travaux.
Oui, alors là, on peut être dans le cas des abords.
Oui, c'est ça, c'est dans les abords. Bah, elle intervient en fonction des abords, et puis elle dit ce qu'elle pense, et si elle ne peut pas s'appuyer sur le PLU, elle s'appuie sur les abords. Enfin, je comprends pas la question, en fait.
Bah, au sens où, je suis peut-être pas très clair dans la façon de la poser, au sens où si le règlement du PLU est développé, relativement précis, si l'ABF est mis dans la boucle, ça simplifie, en fait, derrière grandement, même dans la question des abords, ça simplifie ses avis. Puisqu'il va se référer à un règlement auquel il a participé, à une démarche auquel il a participé. Et derrière,
pas parcelle par parcelle. La question, c'est de savoir quel est le dispositif, comment il fonctionne. Et après, il va lire le règlement comme tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir fait lui-même l'inventaire et l'écriture pour s'en servir. Enfin, sinon ça ne marche pas, notre truc. Sinon, on ne peut rien déléguer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, si l'ABF, au titre des abords, il a un truc particulier à dire, il le dit, mais au titre des abords, au titre de sa propre critériologie, il ne s'appuiera pas sur le PLU. C'est, enfin...
Non,
c'est,
ouais.
Je vois ça comme ça, moi, mais...
voilà. non, mais justement, c'est... Non, je crois qu'on a...
C'est bon, là.
Ouais. C'est bon. Non, mais merci. Non, mais c'est bon. C'était... Non, mais là, c'était la question.
Voilà, est-ce que dira Michel et...